Bienvenue, c'est dans, vous êtes dans C'est de la locale, il est 18h, nous sommes en direct jusqu'à 19h. Ce soir, je suis avec Héloïse, bonjour.
Salut.
Et Julien. Et non,
non.
Avec Rémi, pardon.
Oui, bonjour.
En fait, c'est parce qu'il avait envie que ce soit Julien et pas Rémi.
Ouais, carrément.
Ah, d'accord, vous voulez que je m'en aille en fait.
C'est un lapsus révélateur.
Ouais, c'est ouais. Ça, ouais.
Sinon, au programme, c'est comme d'habitude, hein, des actus, de la musique, des interviews. Vous pouvez nous écouter aux alentours d'Alençon sur 90 FM et dans le reste du monde sur le site internet radiopulse.fr. Vous pouvez ainsi nous rejoindre et communiquer avec nous via le réseau social. Nous sommes sur Instagram, Discord et Facebook. Toutes les actus, les albums à gagner se font sur la page Facebook de C'est de la locale, donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des nouveautés et des thèmes de l'émission à l'avance. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale, émission YouTubeur, parce qu'on a deux interviews de YouTubeurs. Et on va commencer avec Starry Sky, plus précisément avec Tai Wang. Tai Wang, il fait partie du groupe Starry Sky qui ont une chaîne YouTube sur YouTube, évidemment. C'est un groupe de musique, alors il y a ceux qui connaissent et il y a ceux qui vont prendre une claque. En fait, ce sont des génies de la musique, tout simplement. C'est les gars, on leur donne un défi, ils le réalisent comme ça. Et donc, en fait, je vais vous laisser avec l'interview, ce sera plus simple.
Moi, j'ai adoré sa voix, en tout cas, je trouvais qu'il parlait.
Alors, comment t'es venu l'idée de créer ta chaîne YouTube ?
En fait, à la base, comme je suis musicien, compositeur, et que mon objectif, bah, c'était surtout de mettre en avant ma musique, j'ai commencé dans ce que je dirais le réseau traditionnel de la musique amplifiée, c'est-à-dire quand on pense à un groupe de musique qui débute, on pense à des concerts dans des bars, à essayer de passer dans des petites radios, à faire des choses comme ça. Donc j'ai fait ça pendant assez longtemps, pendant presque 4-5 ans, et ça n'avançait pas des masses, en tout cas j'avais le sentiment que ça n'avançait pas beaucoup. Et un jour, j'ai posté une vidéo sur YouTube musicale, qui est ma première vidéo, c'était en 2011, c'était un medley Disney version métal, et ça a explosé. Et du coup, je me suis dit, en fait, mon potentiel est sur Internet. Et donc, du coup, c'est là où je me suis vraiment consacré beaucoup plus profondément à mon contenu sur Internet, parce que tout simplement, c'est ce qui marchait le mieux pour moi. À une époque où j'essayais de faire connaître ce que je faisais, voilà, les concerts et le réseau, disons, plus traditionnel, je ne sais pas comment expliquer ça.
Tu passais par une maison de disques, tout ça, en fait ?
Non, du tout. En fait, j'étais en indépendant, mais j'essayais justement de me faire connaître via vraiment, voilà, ouais, en envoyant des démos à des radios, à des maisons de disques, puis en faisant des concerts dans des salles, dans des tremplins, dans des trucs comme ça. Alors je sais pas si c'est des choses qui se font encore, bon, plus maintenant avec le Covid, mais même avant le Covid, je me demande si c'était des choses qui se faisaient encore. Mais en tout cas, à l'époque où j'ai commencé, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, et vraiment ma communication internet était plus modeste. Et quand j'ai commencé sur YouTube, c'est vraiment YouTube le point clé. Quand j'ai commencé sur YouTube, bah, ça a tout de suite explosé. Après, j'ai eu la chance, je pense, d'arriver au bon moment, d'arriver à un moment où YouTube était en plein essor en 2011. Et j'ai été partagé dès la première vidéo par Link the Sun, qui est un YouTuber assez gros.
Ouais, c'est vrai.
Surtout à l'époque. Donc,
justement, tu avais fait son générique, je crois, à un moment.
Oui, tout à fait. Oui. En fait, ça coïncidait avec Link the Sun qui cherchait à changer son générique et qui avait lancé un espèce de concours. Alors, j'avais participé et j'ai gagné. Et ça a participé à ma mise en avant dès le début, quoi, clairement.
Et c'est vrai que c'est depuis un moment que tu es sur YouTube. Hein. Ça remonte à combien de temps ? 6 ans, peut-être ?
Oula, bah non, plus, ça fait 9
plus,
ans.
9 ans, 9 ans, ouais.
Parce que comme je t'ai dit, ma première vidéo, c'était en décembre 2011. Voilà.
Ah ouais, d'accord.
C'est clair. Elle y est encore, hein. Encore en ligne sur la chaîne, c'est la première vidéo.
Ouais. Sur la chaîne Starry Sky ou Voxmaker ?
Sur la chaîne Starry Sky. J'ai commencé Starry Sky bien avant Voxmaker.
D'accord. Sinon, la chaîne YouTube Starry Sky propose du contenu musical, comme les Tai Reflection et les Jam Fiction.
C'est ça.
C'est quoi, en fait, le contenu d'un Tai Reflection et d'un Jam Fiction ?
Alors, les Tai Reflection, c'est une série de vidéos que j'ai commencé en 2013. Le concept, c'est les gens m'envoient dans les commentaires un défi musical. Et moi, je dois le réaliser. Les défis musicaux, pardon, ça peut être des trucs comme des choses assez loufoques. Hein. J'ai autotuné Cyril Hanouna, j'ai fait une chanson avec des saucisses. tout comme ça peut être des trucs plus artistiques et techniques. Par exemple, j'ai fait une chanson qui s'écoute à l'envers, j'ai fait deux chansons différentes qui peuvent s'écouter en même temps, j'ai fait une chanson en étant sourd, c'est-à-dire sans pouvoir entendre ce que je faisais. Et mon objectif à chaque fois, c'est de faire la meilleure chanson possible avec cette contrainte qui est souvent un peu difficile et complexe. D'un autre côté, les Jam Fiction, alors les Jam Fiction, j'ai arrêté depuis un certain moment. Les Jam Fiction, c'est une série qui a démarré en 2018 qui consiste à prendre un personnage de fiction et à lui écrire une chanson comme si il le chantait, comme s'il la chantait lui-même. Et du coup, on a fait plein de personnages comme Bowsette, comme Spider-Man, Thanos, Détective Pikachu, Joker, etc.
Ouais, justement, en plus, tu parlais de la chanson qui s'écoute à l'envers. On va en reparler parce qu'il y a un projet là-dessus. Mais avant, je voulais parler du groupe Starry Sky. Donc, toi, tu es compositeur, parolier et chanteur, c'est ça ?
Alors, moi, je me définis plus comme le producteur-compositeur du groupe. Et sur scène, ouais, je rappe, je scream, ouais. Je chante parfois. Mais j'essaye de laisser plus le talent de mes compères parler, parce que moi je suis plus un compositeur dans l'âme, alors que eux c'est plus vraiment des performeurs, des musiciens.
En parlant de ça, comment vous êtes rencontrés tous les six?
Alors bah déjà je vais terminer la liste. Sacha c'est la chanteuse principale du coup, et Logan le guitariste, Yuki le batteur, et la sixième c'est Kogane qui est notre dessinatrice, donc qui n'est pas musicienne mais qui fait partie du groupe comme illustratrice, puisqu'on a tout un univers avec le groupe, et donc c'était intéressant pour nous d'avoir d'étoffé l'univers de d'autres arts que simplement la musique. Comment on s'est rencontrés? Alors à la base, moi j'ai formé le groupe avec des amis de lycée qui sont plus dans le groupe actuellement. Et le groupe a vraiment pris une autre tournure quand j'ai rencontré Sacha, donc qui est la chanteuse, puisque ça a vraiment ouvert des nouvelles perspectives au groupe. Et à partir de là, Neku, qui est le bassiste, donc je l'ai rencontré via Voxmakers, ça n'a rien à voir, c'était notre collectif de vidéastes avant, et comme c'est un excellent bassiste et un très bon ami à moi, ça me semblait évident qu'il fallait que je l'engage. Et tous les autres ont été recrutés presque via des castings, j'ai envie de dire, des recommandations. D'accord. C'est-à-dire que par exemple Yuki a été recommandé par Neku, c'était un ancien ami à lui, et Kogane, je l'ai trouvé sur le net via des contacts en commun, etc.
D'où vient le nom Starry Sky?
Starry Sky en anglais ça veut dire ciel étoilé. Alors nous on a décidé de l'écrire en un seul mot, attaché Starry Sky. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, notre influence, c'est un mélange de rock et de métal occidental, mais très influencé par la musique japonaise, la musique asiatique. Mais pourtant, on chante pas en japonais, on chante souvent en français ou en anglais. Nos influences asiatiques et japonaises viennent surtout dans la musique et pas dans la langue. Donc on est très influencé par tout ce qui est animé, jeux vidéo, choses comme ça. Et Starry Sky, le ciel étoilé, c'est une thématique que je retrouve beaucoup dans l'univers des animés de la période dans laquelle j'étais adolescent, donc dans les années 2000 à 2010, c'était l'essor des animés, en France. Et du coup, le ciel étoilé était quelque chose qui m'inspirait beaucoup.
T'as eu beaucoup de contacts, notamment Mamoru Yokota, le dessinateur de Death Note et de Naruto Shippuden pour certains épisodes, et aussi le dessinateur de Bleach.
Masashi Kudo, ouais. C'est pas les dessinateurs du manga papier, c'est les mecs qui ont fait les animés.
Oui, ouais, je
donc,
précise.
Ouais, tout à fait. Ouais, on a eu la chance de rencontrer ces... C'est peut-être ça la question que t'allais me poser. Ouais,
comment ça s'est passé cette collaboration? Et pourquoi cette collaboration?
Bien sûr, alors... Notre univers, comme je t'ai dit, est très, très, très en raccord avec tout ce qui est animé, manga, tout ça. Moi, je suis un énorme consommateur de musique japonaise. D'ailleurs, la plupart des membres du groupe le sont aussi. C'est quelque chose qui m'influence énormément. Et de par cette influence-là, on est invité à jouer très souvent, très régulièrement dans les conventions qui tournent autour des animés, donc Japan Expo, Paris Manga, Toulouse Game Show, tout ça. Et de ce fait, on rencontre d'autres invités qui sont invités dans ces événements. Donc notamment, on a eu la chance de rencontrer ces deux créateurs d'animé. Le point de rencontre, c'est vraiment, je dois féliciter un gars qui s'appelle Andy, qui est un traducteur professionnel japonais-français, sans doute un des meilleurs en France, et qui connaissait notre travail et qui a fait beaucoup le lien et la présentation à ces japonais de ce qu'on faisait et qui ont été séduits par, par notre univers et qui ont souhaité nous dessiner, nous interpréter en dessin. C'est vraiment un grand honneur.
Et Timeshift.
Timeshift.
Ouais, on en parle ?
Bien sûr, tu parles ce que tu veux.
Alors,
tu parles de ce que tu veux.
Vous avez sorti votre album Timeshift, l'album qui s'écoute à l'envers. Explique le concept.
On l'a pas sorti. On a lancé une campagne de financement qui a eu lieu en octobre 2020 là, et qui a été un grand succès. D'ailleurs, merci, un grand merci à tous les participants, à tous ceux qui ont permis ça. C'est vraiment quelque chose qui a été plutôt inattendu, qui a été très très inattendu. On a vraiment eu un gros succès. Ça nous a propulsé en deuxième place des records musique dans le financement participatif en France. Et c'est incroyable. En fait, comme j'ai dit dans les Time Reflection, j'avais fait une chanson qui était la chanson à l'envers. Le principe, c'était de composer une chanson dans l'objectif qu'à la fin, elle soit renversée numériquement. Un peu comme quand on écoute une cassette ou un vinyle à l'envers. Mais du coup, c'est la version à l'envers qui doit sonner bien. Qui doit sonner comme une bonne chanson. C'est un défi qui était assez artistique et technique dans la mesure où on n'a pas l'habitude d'utiliser beaucoup des sons à l'envers. Alors, c'est quelque chose qui se fait musicalement depuis un certain temps, hein, de par les guitares à l'envers, parfois les messages codés à l'envers ou ce genre de choses. Mais là, l'objectif, c'était carrément de faire une chanson entière à l'envers. Et je ne pense pas on ne connaissait pas de démarche qui pousse le truc aussi loin. Et c'était notre objectif. Et cette chanson qui est sortie en fin 2017, elle a eu un énorme succès. On est à 1 400 000 vues, c'est un truc de malade. Elle a complètement explosé. Et au vu du succès de cette chanson et des nouvelles perspectives artistiques qu'elle ouvrait, on s'est dit qu'on allait coupler ça à un projet de longue date qui est notre suite d'album concept. Un album concept, c'est un album qui raconte une seule histoire à travers toutes les chansons, un peu comme une comédie musicale, si on veut. Nous, ce qu'on a fait en 2018, c'était un album qui s'appelait Start, qui racontait une seule histoire. Cette histoire amenait une suite, appelait une suite, voilà. Donc du coup, on voulait faire la suite de cette histoire, et on a couplé ce concept avec la chanson à l'envers. Donc ça donne un album qui est marketé sous le nom Album à l'envers. Alors toutes les chansons ne seront pas à l'envers. Il y aura des chansons à l'envers, il y aura des chansons à l'endroit, il y aura des chansons qui seront un peu des deux. Mais l'idée, c'est d'utiliser cette contrainte technique et artistique comme un pivot narratif au service de l'histoire. Et donc cet album a été financé en octobre 2020, comme je l'ai dit, en novembre 2020, avec grand succès. Et on est en train de travailler dessus pour planifier sa sortie, probablement fin 2021, début 2022.
Ok. Voilà. Et du coup, depuis quand tu le prépares cet album ?
Depuis la fin de Start, notre précédent album concept, on envisageait déjà la suite. Pardon ?
C'est depuis aussitôt après la sortie de l'album, vous avez commencé le deuxième album. Enfin, le prochain album.
Alors, en fait, en réalité, je suis quelqu'un qui aime bien prévoir, en tout cas, les idées longtemps à l'avance. Mmh. Et je m'y tiens, souvent. Donc... En vrai, je préfère rien dire parce que justement, ça fait partie aussi du charme de découvrir petit à petit et ça m'évite aussi d'annoncer des choses qui ne se feront pas. Mais potentiellement, en fait, je prévois déjà quels seront les prochains projets en termes d'albums, peut-être même à 2-3 albums qui sont prévus déjà dans nos esprits. On a juste à les enregistrer, à les préparer, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, c'est le plus long. Mais comme de toute façon nos chansons s'inscrivent dans une continuité narrative, on a prévu bien plus loin que l'horizon de ces deux albums, bien sûr.
Est-ce que la crise du Covid, du coup, va impacter le projet ?
Le projet, tu veux dire le projet de l'album ou le projet Starry Sky ?
Timeshift, Starry Sky, le projet YouTube, tout.
En fait, au début de l'année 2020, on avait démarré notre première tournée indépendante. Il faut savoir que, comme je disais, on jouait beaucoup dans les conventions à thématique manga. Mmh. Et on n'avait pas trop l'occasion de jouer en dehors de ce circuit-là, simplement parce qu'on ne s'en donnait pas nécessairement les moyens. Et une fois, en 2018, je crois, on avait tenté de faire un concert hors convention et on avait rencontré toute une, toute une facette de notre public qui nous disait « Mais nous, on veut voir vos concerts, mais on ne s'intéresse pas aux conventions. » Et on s'est dit « Mais il faudrait qu'on organise des événements pour ces gens-là. » Et c'est comme ça qu'on a démarré notre première tournée indépendante qui s'appelait Équilibre Tour. Donc c'était une tournée de 19 concerts partout en France, en Suisse et en Belgique. Alors il y avait plusieurs conventions, mais il y avait aussi pour la première fois une série de 9 dates en salle de concert. Malheureusement, elle était prévue en avril 2020 et avec le Covid, ça a été entièrement annulé. Simplement, bon, ben voilà, on s'en est remis. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Et cette tournée annulée, c'est que partie remise. On en refera une quand la période s'y prêtera. Et ça nous a permis de nous focaliser sur notre deuxième projet qui était justement le financement de l'album Time Shift. Du coup, c'est ce qu'on s'est mis à faire en avril. La campagne a démarré en octobre et comme j'ai dit, on a eu un très très bon accueil de notre public. On est vraiment très chanceux de ce côté-là, je suis vraiment très reconnaissant. Et voilà, là, c'est la suite des événements.
Ok. Et tu as dit dans une vidéo sur la chaîne Starry Sky que les gens qui participeront à la campagne Ulule resteront gravés dans l'histoire de Starry Sky. Pourquoi ?
En fait, comme je disais, notre volonté d'être narratif à travers nos œuvres, ça raconte une histoire, mais ça raconte pas n'importe quelle histoire. En fait, ça raconte simplement notre histoire. C'est un peu une autobiographie, si on peut dire, avec des images qui sont un peu qui relèvent presque de la fantasy ou de la science-fiction, mais qui est quand même très très autobiographique. Nous jouons notre propre rôle dans cette histoire. Il y a pas de, c'est pas un self-insert, c'est littéralement notre histoire. Et de ce fait, tous les événements qui nous arrivent dans la vie réelle ont un impact sur cette histoire. Et en l'occurrence, notre stratégie de communication et de narration voulait que cette campagne invite les gens à vraiment participer en profondeur à ce scénario. Et en plus d'être extrêmement engageant, eh bien, ça permet d'avoir une proximité avec notre public encore plus forte. Et ça a extrêmement motivé notre public qui a été vraiment qui a joué le jeu à fond, qui a vraiment joué le jeu à fond, et c'était incroyable quoi. Donc c'est en ce sens que la campagne participe à l'histoire de l'album, c'est-à-dire que l'issue de cette campagne aurait eu un impact sur l'histoire de l'album Time Shift. Et on avait prévu plusieurs fins possibles en fonction des événements. Et okay. Bah, je peux dire que c'est la bonne fin, quoi, a priori.
L'album a été disponible en précommande pendant 30 jours avec la campagne de financement. Mais maintenant, dans ta vidéo, tu as dit qu'il fallait attendre 2 ans au moins. C'est toujours d'actualité ?
Alors, comme j'ai dit, notre objectif, c'est fin 2021, début 2022. Donc je préfère dire maintenant que ce sera probablement plus fin 2022. Mais oui, c'est toujours d'actualité, bien sûr.
Ok. Et si tu pouvais définir l'aventure YouTube et Starry Skies en 3 mots, ce serait lesquels et pourquoi ?
En 3 mots ?
Ouais.
C'est précis, hein. j'en sais rien. Non, parce que, en fait, si tu veux, je suis pas... Je sais pas, je prends les choses telles qu'elles sont, je suis assez stoïcien de ce côté-là. Si les choses se passent bien, eh bien, je réagis en conséquence. S'il y a des opportunités à saisir, je tente au mieux de les saisir. Et s'il y a des choses qui se passent mal, eh bien, on essaie de rebondir. Et puis c'est tout, quoi. C'est la vie continue. Et je suis très reconnaissant pour l'instant que ça prenne ce chemin-là. Tout ce que je pourrais dire, si jamais il y a des gens de notre public proche qui nous écoutent, c'est que cette campagne nous aura donné l'occasion de réaliser que on souhaite partager beaucoup plus de choses avec ce public. On est très reconnaissant, en fait, et on aimerait partager vraiment plus de choses avec eux. Quelque part, ils nous donnent la chance de vivre, déjà, de vivre une passion. Et pour nous, le meilleur remerciement possible qu'on peut leur donner, c'est de le faire à fond, quoi. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Voilà. C'est un peu bateau hein, quand même comme réponse.
Non,
c'est fou.
C'était
hein.
Très bien. Hein. C'était très
c'est
bien.
Dingue. Hein.
Quels sont tes projets futurs, vidéo, musique, tout ça ?
Alors, il y aura quelques épisodes de Jam Fiction, ainsi que d'autres chansons qui risquent d'être diffusées entre février et juin. Tout en parallèle, ça va être l'album à fond. Ça va être, on va faire l'album, donc forcément, les choses sont un peu ralenties. Et en parallèle, j'ai toujours mon projet plus vraiment pour le fun, qui est de faire une chaîne de vulgarisation. Enfin, j'appelle ça une chaîne de vulgarisation, c'est pas vraiment une chaîne de vulgarisation, c'est plus une chaîne de nerd, une chaîne YouTube où je parlerai vraiment pour les musiciens, quoi. Parce que je sais que j'ai tout un pan de mon public qui est musicien, qui est créatif,
parler vraiment
qui s'intéresse. Ouais, pour parler voilà plus de trucs techniques, trucs comme ça, trucs que je peux pas vraiment aborder sur la chaîne d'habitude parce que ça n'intéresse pas la majorité des gens, et je le comprends complètement, j'ai pas envie de les saouler avec ça, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de parler de ce genre de choses, et je sais qu'il y a des gens qui seraient intéressés. Alors on sera peut-être très peu nombreux, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pouvoir partager des choses autour de thèmes qu'on apprécie, quoi.
Merci Tai.
Ciao ciao.
Donc c'était l'interview de Tai Wang du groupe Starry Skies et de la chaîne YouTube Starry Skies. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose maintenant d'écouter un morceau du groupe Starry Skies. Excuse, I won't let you go.
Ok.
Je sais pas si vous entendez dans le micro, mais il y a Rémi qui se met du gel.
Ouais.
On entend dans les oreilles.
Ouais, parce que Covid-19, un geste barrière.
Comme tu sais.
Do you always need to act so strong? Always sad because you need your own song. You might think you're better on your own. You choose to live, but I keep going on. You were always with me, right behind, and we found the balance. Your presence is a constant to me. Don't you take my heart.
Yeah.
C'était... Oula, j'ai perdu mes fiches.
Starry Sky, excuses, I won't let you go.
Merci Rémi.
Je t'en prie.
Et vu que Héloïse n'est pas revenue de on ne sait pas où...
Tu as le droit d'utiliser mon microphone Roger.
Le mégaphone Thermostadis, bien sûr.
De Rémi. Allez Roger.
Héloïse, tu crois que tu viens faire le direct? Pardon.
Bon, du coup, en attendant, on va vous présenter la prochaine interview.
La prochaine interview, vas-y Rémi.
Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Fred de la chaîne Outlanders Post-Apocalyptic Universe, un youtubeur de qualité que je ne saurais trop vous conseiller. Non, je ne suis pas biaisé.
Et Louis est de retour.
Ça.
Donc Fred de la chaîne Outlanders, peux-tu expliquer comment t'es venu l'idée de monter cette chaîne YouTube ?
J'avais envie de faire des conneries sur YouTube, voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé en particulier ?
Bah oui, et pas qu'un peu. Bon, en premier, il y a quand même Monsieur Weirdo, parce que lui, ça a été vraiment la énorme source d'inspiration, mais genre de ouf. Parce que bon, c'est sûr que je regarde beaucoup d'autres YouTubeurs, d'autres YouTubeuses, hein, on reste sur les classiques un peu avec les gens de la Redbox comme Bastu et tout ça, mais Monsieur Verdo, c'est vraiment le mec que quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah mais non, mais il faut que je sois dans la même fibre que ça, quoi. On se prend pas la tête et c'est génial, c'est incroyable. »
Donc la chaîne s'appelle Outlander Post-Apocalyptic Universe. Pourquoi avoir décidé de parler de ce thème ?
Ah, alors là, le thème du post-apo, c'est vraiment mon gros dada. J'ai une passion... juste incroyable pour le post-apo et puis aussi pour tout ce qui touche à la science-fiction, le cyberpunk et tout ça. Donc en soi, ça reste pas que sur le post-apo, c'est aussi, ça englobe pas mal de sous-genres comme ça, très dystopiques, très à fond dans, on va dire, dans l'univers un peu brutal, froid qu'est le post-apo, le cyberpunk et tout ça. Et je suis surtout aussi dans le délire années 80. C'est dans les années 80, il faut dire ce qu'il y avait, hein, c'est qu'il y avait un énorme boom mais de films post-apo, pas forcément après la sortie des films Mad Max. Tout le monde s'est dit, mais attendez, ça a marché, on va faire aussi, nous, nos propres films post-apo. Et sinon, c'était bien des nanars, et je kiffe ces nanars, c'est complètement con. Voilà.
Voilà. Justement, ta chaîne, elle est pleine de références à la pop culture des années 80. On voit par exemple des génériques très travaillés avec une écriture un petit peu néon, très kitsch. Et je voulais savoir si tu avais un lien particulier avec cette décennie, à part le post-apo.
Si j'avais un lien avec cette décennie, c'est ça que t'as dit ?
Oui.
C'est une très bonne question parce que j'ai jamais pensé trop à ça. En fait, j'ai grandi dans les années 90, mais pour savoir que à cette époque-là, il y avait encore énormément d'influence des années 80. Hein. Je veux dire, moi j'ai surtout vécu avec mes cousins, mes cousines qui étaient bien plus grands que moi et qui avaient encore leurs jouets des années 80 et tout ça. Et je crois que je suis vraiment restée bloquée dans cette nostalgie. Ouais, c'est ça, en fait, je suis resté bloqué dans cette nostalgie, et c'est ça qui fait que j'ai jamais vraiment, on va dire, été très contemporain, on va dire. Voilà, je suis toujours resté dans ce délire-là. Par exemple, quoi dire, je suis très fan de rétro gaming, je kiffe le rétro gaming, mais de quelque chose de fou, et j'aimerais bien rebrancher mes vieilles consoles, j'aimerais bien proposer un peu de jeux, pas sur ma chaîne, mais sur une chaîne secondaire. De vieux jeux, mais il faut dire ce qu'il en est, je suis un peu nulle sur les vieux jeux vidéo, je suis vraiment une grosse quiche. Donc je sais pas, j'hésite, mais oui, je suis toujours restée dans ce gros délire là. Mais il faut savoir aussi qu'en plus, ça revient énormément à la mode, rien qu'avec la synthwave par exemple, ce courant musical totalement mais inspiré des années 80, hein, vraiment, on va dire, c'est vraiment le point de départ, avec leurs clips ultra kitsch, hein, comme les clips de Carpenter Brut ou de Perturbator et tout ça. C'est extrêmement... ça revient vraiment à la mode, c'est ce gros move de nostalgie qui vient, comme, en fait, oui, d'une époque insouciante où on pensait pas au lendemain, on pensait à l'instant présent et on vivait vraiment à fond avec des vieilles bagnoles qui polluaient énormément et des vieux PC qu'il fallait encoder 5000 codes pour pouvoir jouer à un jeu, quoi. Donc voilà, je crois que c'est vraiment nostalgique en fait.
Et donc, tout à l'heure, tu parlais de jeux vidéo. Est-ce que ça t'intéresserait de créer ta chaîne Twitch ou une chaîne gaming spécifique?
Eh bien, justement, tu parles bien de Twitch parce que j'ai déjà créé une chaîne Twitch, mais j'ai un énorme problème, c'est que j'ai une connexion de apocalyptique, en fait. Et c'est pas faute d'avoir tanné les fournisseurs Internet pour demander est-ce que mon bunker peut être relié à la fibre. Tout le monde dit oui, bien évidemment, tout le monde dit oui, et d'ailleurs ça devait être fait avant 2021. Sauf que, bon, je crois que c'était du marketing pour dire non, restez chez nous, vous inquiétez pas, on vous aime, mais non. Donc du coup, j'ai une connexion de merde et je dois prendre mon mal en patience, et ça me frustre parce que j'ai vraiment très envie de faire des lives, mais vraiment très envie. Il n'y aura pas que des jeux vidéo, il y aura aussi du dessin. Et bon, en attendant... Mais je rage, quoi, voilà, je rage.
D'ailleurs, en faisant un lien avec le dessin, ta chaîne YouTube est quand même pleine de formats qui n'ont rien à voir les uns aux autres. On a du vlog, du vlog, de l'unboxing, du dessin et plein d'autres trucs. Et je voulais savoir comment est-ce que ça a germé dans ta tête l'idée de mettre tous ces formats-là.
Mais parce qu'en fait, je me prends pas la tête. C'est ce que beaucoup de YouTubeurs appellent une chaîne pour tout ou... Tu as une idée, tu le fais. Au départ, c'est vrai que je voulais vraiment juste rester dans un thème post-apo et purement que ça. Puis je me suis dit, oui, mais bon, ça va vite tourner en rond. Et moi, j'ai envie de proposer vraiment tout ce qui me plaît, tout ce qui fait partie de mon univers. Et si jamais un jour je me lève et que j'ai une idée, par exemple, le marathon, ça, personne ne le sait, mais j'ai trouvé l'idée, mais le matin, en me levant, c'était la réouverture des bars et je me promenais à Nancy avec mon copain. Et là, je tombe sur une pote et on se regarde, on me dit « Écoute, je lui explique mon idée. » Et elle fait « Mais attends, mais banco. » Je suis vite rentrée chez moi, j'ai chargé la caméra, j'ai vidé la carte SD et on est parti. Ouais, c'est vraiment, j'ai une idée, je la fais et puis je me prends pas la tête. Après, voilà quoi. De toute façon, ça reste toujours dans un thème très années 80. Donc, j'adapte toujours mon idée pour que ça soit un peu... Voilà, que ce soit un peu en raccord au niveau ambiance, au niveau visuel, quoi. Ça, c'est vraiment le seul truc vraiment que je travaille pour pas que ça soit trop un peu dispatché, quoi.
Et tu penses continuer sur le long terme? Et sinon, à part avoir la fibre, bien sûr, ce serait quoi tes projets?
Alors, les projets, je crois que j'en ai beaucoup trop et c'est mon gros problème. J'ai trop d'idées et j'ai un carnet... avec mille et une idées et je me dis bordel, comment est-ce que je vais faire tout ça? Alors en projet vraiment futur, c'est continuer déjà dans ce domaine-là, vraiment que dire partir en what the fuck et compagnie. Il y aura beaucoup plus de vidéos qui seront filmées au bunker même, parce que j'ai fait un très très beau studio, hein, pour ceux qui savent pas, il est juste magnifique. Mais le souci c'est que à la base, je voulais vraiment faire beaucoup de vidéos extérieures, mais c'est bon, déjà avec l'histoire du corona, ça m'a fait un peu la douche froide. Je me suis dit, ouais, non, filmer dehors, c'est chiant. Voilà. Et puis, en plus, forcément, à force de. Comment expliquer ça? J'ai un peu du mal à m'expliquer aujourd'hui. Hein. On sent que j'ai fait la fête ce week-end.
Il n'y a pas de souci.
C'est la catastrophe. J'ai encore la gueule de bois. C'est un truc de malade. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, en faisant plus de vidéos dans le bunker, en faisant des vidéos réactions où je découvre des choses, où je partage vraiment des choses que j'ai découvert de manière totalement what the fuck aux survivants. Donc les survivants, ce sont mes abonnés. C'est une putain de communauté. Elle est géniale. Et bien, je me suis rendu compte que c'était aussi plus facile parce que le problème, c'est que faire des vidéos dehors, c'est prendre plusieurs prises de vue, c'est chronophage, quand il faut des accessoires, c'est coûteux, voilà. Donc du coup, maintenant, je vais plus m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus impulsif, on va dire. Je me lève, je vais dans mon bunker, j'allume la caméra, et voilà. Mais sinon, quand il y a dans les autres projets, c'est... Ouf, j'en veux beaucoup trop, quoi. C'est peut-être créer, ouvrir un Teespring pour faire des t-shirts avec mes illustrations ou des trucs comme ça. Mais ça, j'y réfléchis encore, que je dois encore faire des illustrations. C'est... Oui, j'ai beaucoup trop d'idées, voilà. Et je parle beaucoup trop.
Mais non, c'est bon, t'inquiète. Justement, tu as mentionné le coronavirus, la Covid-19. Comment est-ce que ce virus t'a impacté au sens YouTube et personnel?
au départ, j'avais plein de projets à faire dehors. Des trucs vraiment où je vais dans des petits urbex dans les alentours de Nancy pour faire des présentations un peu comme mes premières vidéos où je joue des boîtes de conserve dans un urbex en mode survie. J'avais une idée même de faire des petits moments cuisine dehors comme ça avec vraiment des rations de survie et tout ça, vraiment essayer de refaire des bons plats à partir de trucs dégueulasses. Sauf que le problème c'est que bon, forcément il fallait rester chez soi, il fallait rester au bunker. Et ben j'ai quand même pris, on va dire, ce petit défaut en avantage en me disant ben, c'est la fin du monde, ben, autant jouer là-dessus. Et donc d'où une vidéo où j'ai fait mes courses complètement habillée en post-apo dans la rue, mais j'ai eu du mal d'avoir les autorisations pour filmer dans le magasin, ce qui fait que la vidéo n'est pas, voilà, elle ne me plaît pas trop, j'ai vraiment pris on va dire cet impact comme une force, et d'un côté ben, ça m'a permis aussi de me remettre en question, de réfléchir à ce que je voulais faire pour l'avenir sur la chaîne, et au contraire ça m'a plutôt ça a été un avantage quoi, donc j'ai pu avoir plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, et maintenant je sais beaucoup mieux ce que je veux faire, mais le souci c'est que là maintenant tout de suite j'ai quand même beaucoup d'idées à faire à l'extérieur et ça m'embête un peu quand même, mais bon, on fait avec comme on dit, hein. Faut avoir la force de continuer.
Et je vais poser un peu la question qui fâche, hein. Penses-tu à te faire vacciner?
Ah bah oui, pourquoi je ne me ferais pas vacciner? Après, c'est juste un vaccin, j'ai déjà fait mes vaccins contre les hépatites, contre les tétanos, c'est un vaccin contre un virus, ben oui, pourquoi pas. Il y a bien tous les ans un virus, un vaccin contre la grippe normale, saisonnière, pourquoi pas. Bon, ce vaccin, je le fais pas parce que c'est plus pour les personnes âgées, on va dire, et que moi, je tombe jamais malade, j'attrape jamais la grippe, mais je me fais vacciner, moi, j'ai pas de soucis avec ça. Pourquoi je me ferais pas vacciner, plutôt, mais ouais.
Oh oui, il y a certaines personnes qui sont réticentes. Oui.
Ouais, un Français sur deux, hein.
Ouais.
Bon, les gens vont dire, ouais, t'as un mouton. Eh ben, moi, je vais vous dire, c'est moi qui ai la laine, c'est pas vous.
D'ailleurs, récemment, tu as fait part de ton coming out trans. Est-ce que les retours ont été bienveillants de la part de ta communauté, les petits survivants?
Eh ben, là, ils m'ont juste... Waouh, ils m'ont tué, c'est incroyable. C'est juste des amours. Je les veux tous dans ma team post-apo, hein. Si jamais c'est la fin du monde, moi je fais une communauté avec tout le monde. Mais c'est une communauté de love. Il y a trop d'amour, mais ça a été des retours. Mais moi je m'attendais quand même à voir quelqu'un dans le tas qui fasse yeah, caca boudin ou je sais pas quoi. Non, vraiment, tout le monde a été des amours. Ouais, je sais pas quoi dire, quoi. J'ai même pas de mots pour mettre dessus tellement que c'est waouh. Vraiment, un truc de fou. C'est. J'en reviens toujours pas. Vraiment.
Ok, on fait un bisou à tous les petits survivants. Et du coup, on va finir par des questions plus légères. Ton média, donc film, BD, musique, tout ce que tu veux, préféré sur le monde post-apo?
En BD, on va commencer directement les pieds dans le plat, c'est Tangirl. Voilà, y a pas à discuter, c'est Tangirl. C'est juste...
Et en film?
Et maintenant... En film, bon, alors là c'est difficile parce que j'ai plein de films que j'aime bien, mais je crois que vraiment, bon là c'est indéniable, en plus grosse claque que j'ai eue de toute ma vie, c'est le dernier Mad Max, le Fury Road. La première fois que je l'avais regardé, j'étais, ouais, je comprends rien, il y a des grosses bagnoles, ça fait pas très Mad Max alors qu'il se battait pour du pétrole, et la deuxième fois que j'ai regardé, mais je suis tombé amoureux du film, j'avais pas réussi à digérer la première fois que j'avais vu, et là ça a été... Je crois que je l'ai vu au moins 50 fois ce film, c'est pas possible. C'est... Pourtant, je regarde presque jamais des films parce que j'ai pas toujours le temps. Mais là, c'est le film vraiment qui m'a. Où j'ai dit, ouais, c'est bon, je peux bien perdre mon temps pour regarder ce film tellement qu'il est beau. Il est trop beau.
Et du coup, si tu devais décrire ta chaîne YouTube en trois mots, ce serait lesquels et pourquoi?
Ah! En trois mots! Ah!
Ah! On a perdu Fred.
Ah oui, là, ça va être difficile.
Elle s'est
rebootée. Putain, alors, trois mots. Bombe nucléaire, connerie et grossièreté. Et beaucoup de ro. Non, ro. Ro, oui, bombe nucléaire, ro et grossièreté.
Ça fait quatre, ça.
Oui, je rote beaucoup. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. J'aime beaucoup faire ça.
Ça passe toujours. Bon bah écoute.
Disons que la bière ça fait roter. Par contre la Vizard c'est nul, ça fait pas roter, ça me fout.
Et du coup, c'était notre rencontre avec Fred de la chaîne Outlander. J'espère que vous avez aimé. Moi, c'était une de mes interviews les plus qualitatives, enfin celles que j'ai les plus aimées. Voilà. Et nous allons accueillir quelqu'un d'autre dans le studio.
Bonjour oui. Stéphanie.
Bonjour tout le monde. Alors, vous m'avez bien manqué. Alors vous, les gars, je ne vous connais pas beaucoup.
Ouais.
Parce que... Non, mais...
T'inquiète pas, ça va venir.
Je vous connais... Ouais, bah t'inquiète, toi aussi, tu vas apprendre à me connaître. Oh et je suis ravie de retrouver le micro de Radio Pulse en fait.
Magnifique.
Depuis tout ce temps.
Et du coup, tu viens nous parler de quoi, Steph ?
Covid et vitamine D. Tout le monde parle des bienfaits de la vitamine D. Là, tout le monde, enfin, tous les médias s'emparent du sujet. Alors que depuis le 22 mai 2020, l'Académie nationale de médecine a sorti un communiqué. Alors je reprends un peu mon souffle, hein, parce qu'avec le masque, je cours dans les escaliers.
Tout ça. Courant dans les escaliers, il y a beaucoup d'escaliers.
Elle a tapé un sprint.
Et sans tomber, hein, attention.
C'est de qualité.
Parce que pour ceux qui me connaissent...
Les escaliers de Radio Pulse...
En plus, les marches sont compliquées.
Et non, rien du tout. Donc, le communiqué du 22 mai dit que la vitamine D est une pro-hormone synthétisée dans le derme sous l'effet des ultraviolets, c'est-à-dire les rayons du soleil, puis transportée dans le foie et le rein, où elle est transformée en hormone active. Elle est responsable de l'absorption intestinale du calcium et de la santé osseuse. Mais la vitamine D a aussi des effets non classiques, en particulier, elle module le fonctionnement du système immunitaire par la stimulation des macrophages et des cellules dendritiques. Donc, je te vois me regarder avec des grands yeux, et en effet les cellules dendritiques, je suis allée voir ce que c'était, et ce sont les cellules du système immunitaire qui engagent les réponses immunitaires aux attaques qu'elles reçoivent.
D'accord, donc ça les booste en fait.
C'est ça.
Nickel.
Et elles jouent un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à l'origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë qui caractérise les formes sévères et souvent latérales de Covid-19. Donc une corrélation significative entre de faibles taux sériques de la vitamine D et la mortalité par le Covid-19 a été montrée. Ce phénomène suit généralement un gradient nord-sud, bien qu'il ait des exceptions telles que les pays nordiques où la supplémentation des nutriments de vitamine D, en particulier des produits lactés, est systématisée. Par contre, les pays du sud de l'Europe affichent de façon surprenante une prévalence élevée de carences en vitamine D, malgré un ensoleillement plus élevé. Ceci expliquerait que les nourrissons qui reçoivent régulièrement de la vitamine D fassent des formes asymptomatiques de Covid-19 et donc moins de complications. La vitamine D peut être considérée comme un traitement préventif ou curatif de l'infection due au SARS-CoV-2. Mais en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, elle pourrait être considérée comme un adjuvant à toute forme de thérapie.
Ok, d'accord. Et est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourrait trouver de la vitamine D ?
Bah bien sûr, il y en a dans énormément d'aliments. Le top du top, c'est l'huile de foie de morue. Donc, alors comme ça...
De nom, ça donne pas envie.
Ouais, ça donne pas envie. Mais il faut savoir que 10 centilitres ou 100 grammes équivaut à 250 microgrammes de vitamine D, alors que y compris, enfin, un homme moyen
a
besoin de 15 microgrammes de vitamine D par jour. Alors sinon, l'huile de foie de morue, je comprends, ça fait pas envie, mais tous les poissons gras ont leur effet. Le hareng grillé, le hareng fumé et le hareng fumé à l'huile ces trois aliments font partie du top 5 des aliments riches en vitamine D. Sinon, il y a aussi les œufs et plus particulièrement le jaune, le fromage, les céréales ou le chocolat pour bébé. Les aliments pour bébé sont riches en vitamine D. Le lait en poudre, la sauce curry, pour ceux qui veulent, est à la 41e place. Et le lait concentré sucré à la 73e place. Mais je vous conseille de réapprendre un peu à cuisiner et à diversifier nos goûts, parce que et arrêter de manger du
gras toute
la journée. Non, mais du plat préparé avec des graisses saturées qui nous flinguent nos estomacs et qui justement aussi diminuent nos défenses immunitaires.
C'est
alors
pas facile.
Il est préconisé que 15 microgrammes de vitamine D par jour, mais selon l'Académie de médecine française, les apports quotidiens recommandés ne suffisent pas. Il faudrait doubler les quantités pour atteindre 30 microgrammes par jour chez l'adulte.
D'accord, ok.
Donc n'allez pas non plus dévaliser les pharmacies les centres de supermarchés, comme pour le papier toilette ou les pâtes ou le riz. Ça sert à rien d'aller avaler des gélules, réapprenez à cuisiner, sortez, parce que la vitamine D, même s'il y a un peu de nuage, les UV passent à travers les nuages. Donc,
prendre l'air, ça
fait du bien. Et vous vous ressourcez en vitamine D, même s'il n'y a pas le taux d'ensoleillement que l'on souhaiterait.
Donc concrètement, bien manger, faire du sport et se faire des masques en peau de hareng.
C'est ça.
Super. Eh bien, écoutez, la recette pour se débarrasser du Covid ici sur Radio Pulse.
Et hydratation à l'huile de foie de morue.
Tout à fait, tout à fait.
Et les tacos curry.
Tacos curry.
C'est ça.
Ça, c'est pour le cheat meal. Alors, il me semble aussi que tu voulais nous parler de quelque chose, Elo.
Moi, je vais parler d'une nouvelle un peu moins joyeuse. J'avoue que j'aurais préféré pas en parler, mais il faut bien parler de l'actualité. Donc, je suppose que tout le monde est au courant de l'assassinat de Laura, jeune apprentie coiffeuse à Alençon.
Ouais.
Donc, je voulais vous dire qu'une marche blanche est organisée dimanche à 14h au départ du parc des Promenades. C'est le collectif pour les droits des femmes de l'Orne qui l'ont organisé et ils appellent aussi à une réunion le mercredi 20 janvier, donc demain, devant l'appartement, le 27 rue Saint-Blaise à Alençon. Je voulais un peu parler des féminicides. Compliqué à prononcer, donc, parce que nous sommes le 19 janvier et il y a déjà 2 féminicides dans l'année en France. Et je voulais rappeler quelques chiffres. En 2019, il y en a eu 152. Et en 2020, il y en a eu 98, et je trouve que c'est énorme, et je ne comprends pas que ça ne baisse pas, et on est rempli de tarés. Bref, en France, chaque année, la moyenne est de 213 000 femmes qui subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, d'après le collectif Féminicide en France. Je trouve que ces chiffres sont dramatiques, et je ne comprends pas dans quel monde nous vivons.
Voilà. Messieurs, vos femmes ne vous appartiennent pas, ce ne sont pas des objets. Et on ne casse pas sa femme comme on casse la télévision. À un moment, il faut faire un travail sur soi. Et c'est aussi valable pour des femmes qui ont du mal à se détacher. Voilà, une séparation est une séparation. Ça peut être douloureux, mais il faut savoir rester digne.
Ouais, moi, ça m'énerve qu'on leur dise « Oui, mais il avait subi un trouble psychologique » ou toutes les conneries comme ça, qu'on leur cherche des excuses pour arrêter. Au bout d'un moment, on n'enlève pas la vie de quelqu'un comme ça. C'est dégueulasse.
C'est clair. Il fallait réagir avant, petit père. Et puis... Et puis voilà. Ouais. Non, sinon je vais dire quelque chose, il ne faut pas le dire à la radio.
Tu peux, c'est Radio Pulse.
Non, parce que je ne veux pas appeler... on ne répond pas à la violence par la violence,
ouais,
mais...
Mais dimanche, pour rendre un hommage, vous pouvez aller au parc des promenades, je pense que ça fera du bien.
Mais ouais, ça soulève le cœur et c'est bon, c'est pas normal, il faut que ça s'arrête, quoi.
D'accord.
Donc, moi, je vous propose une petite musique, oui. Que je vous propose d'écouter, c'est une chanson un peu plus joyeuse, disons.
On va remonter l'ambiance parce que là, c'était un peu lourd et tout ça, mais c'est aussi le but d'un média d'informer et justement d'apprendre des choses à la population.
Et c'est pas parce qu'on met de la musique. Je pourrais raconter une anecdote où à la sortie où à la sortie de la messe au moment de la sortie du cercueil où on a mis de la musique. Et le mec qui était chargé de... il y avait 2 dossiers, en fait, sur la clé USB. Et le gars s'est trompé. Il n'a pas pris les musiques de la sortie d'église, mais les musiques qu'aimait notre défunte adorée. Et en fait, la chanson de départ, c'était « Mort au con » des Tagada Jones. Donc ça, si c'est pas une sortie réussie, moi j'ai envie de te dire.
Je crois que c'est la meilleure sortie de tout le temps.
C'est ça, c'est la meilleure.
C'est clair, love.
Bon, un peu de musique du coup. La chanson Inutile de McFly et Carlito en featuring avec Julien Doré, ou Golden Julien.
Parce que rappelons-le, c'est aussi une soirée spéciale YouTube.
Évidemment.
YouTube ?
Voici une liste de choses dont on questionne l'utilité.
Est-ce que vous êtes ready?
Let's go. L'emoji baril.
La partie inférieure du coupe-ongle.
Le point virgule.
On ne sait pas.
La notice dans les boîtes de médicaments.
L'application boussole.
Les petits oignons dans les bocaux de cornichons.
Les smart box.
Useless. La vésicule biliaire.
On ne sait pas à quoi ça sert. Ces choses sont-elles nécessaires? Qui utilise ça vraiment? Répondez sans bégaiement.
Le haut circonflexe.
La petite signature au dos de la carte bleue.
LinkedIn.
On ne sait pas.
Les cookies sur Internet.
Magikarp.
C'est discutable.
La coriandre.
Le coriandre. Les petites boules que l'on trouve à l'intérieur des pots de plantes.
Oh là là. On ne sait pas à quoi ça sert. Ces choses sont-elles nécessaires? Qui utilise ça vraiment?
Nous n'y comprenons vraiment rien.
Les bidets.
Aucune idée.
Les stories sur Facebook.
Le côté bleu de la gomme.
Je sais pas ça.
Green Lantern.
La petite sonnette à l'accueil des hôtels, tu sais.
Les cars en sac.
On ne sait pas.
La toute petite poche dans les jeans.
À quoi sert-elle? Que mettons dedans? On ne sait pas à quoi ça sert.
On ne sait pas.
Ces choses sont-elles nécessaires?
On ne sait pas.
Qui utilise ça vraiment? Répondez sans bégaiement.
Allez.
Est-ce utile ou inutile?
Je ne sais pas.
Est-ce habile ou bien futile?
Sabemos.
Où se trouve leur intérêt? Impossible de répondre sans bégayer.
Allez. Les petits autocollants sur les fruits.
C'est vraiment chelou.
Oh mais qui voilà?
C'est la vedette là.
Les cadres numériques, les deuxièmes prénoms, les placements de produits quand tu peux t'acheter les produits, prouver sa majorité sur un site porno, les potages à la machine à café, et surtout, surtout, les chanteurs qui prennent une voix possédée pour faire des chansons sur des crustacés. Ah, c'est inutile. Ah, c'est inutile.
Tu as bien compris le concept, Golden Julien. Viens avec nous.
On ne sait pas à quoi ça sert. Ces choses sont-elles nécessaires? Qui utilise ça vraiment? Répondez sans bégaiement. Est-ce utile ou inutile? Est-ce habile ou bien futile? Où se trouve leur intérêt? Impossible de répondre sans bégayer. La la li la lo la lula. La la li la lo lulu. La la li la li la lo la. Lulé lo la li lé lé. La la li la lo la lula. La la li la lo lulu. La la li la lo la li lé. Lo lé lé lou lou la li.
C'était la chanson Inutile, des choses inutiles avec McFly et Carito et Julien Doré. Les
Est-ce
gars.
Que c'est une chanson inutile aussi.
Ouais, ouais, bah c'est une chanson inutile de toute façon, c'est dans le truc. Hein. Bon.
On t'entend Rémi manger des pop-corn.
Ouais, parce que c'est la journée internationale du pop-corn, ouais.
Il y a vraiment des journées internationales qui servent à rien.
Vous pouvez me laisser faire ma chronique.
Bon, il reste 5 minutes, donc ouais, je pense que tu pourrais. Hein.
Bon alors. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière et peu connue du grand public. Vous aimez les manger, mais vous ignorez sa fête. C'est la journée internationale du popcorn. De ce fait, on va retracer un petit peu son histoire.
Oh, c'est horrible.
Alors, en 1612, les Français découvrent le popcorn avec les Iroquois.
Un peuple
nord-américain. Hein. Le maïs on peut éclater sous deux formes, en champignon ou en papillon. Alors, la forme papillon est généralement plus appréciée, comme celle que je suis en train de manger, puisqu'on le peut, on peut les recouvrir de caramel, qui est légèrement meilleur en calories et en goût. Quoi. Et du coup, si je vous dis popcorn, vous me dites quoi?
Bah moi, je te dirais cinéma.
Cinéma, ouais. Et vous êtes jamais demandé, vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on mange du popcorn au cinéma?
Bah dis-nous.
Alors tout simplement, si on mange du popcorn au cinéma, c'est à cause de la crise économique de 1929. Et ouais. Alors à l'époque, les Américains sans sous se rendent en masse dans les salles car c'est un loisir vraiment peu coûteux. Et le maïs soufflé était proposé par des marchands à l'extérieur des établissements. Les propriétaires des salles, eux, ils en voulaient pas parce que justement ça collait, ça tachait partout, c'était dégueulasse. Mais après, ils se sont rendus compte que ça pouvait doubler leurs bénéfices et encore plus ramener, ça pouvait ramener encore plus de personnes dans les cinémas. Donc musique, dialogue avec le maïs et tout ça, c'était un calvaire et tout ça. Mais bon, au moins, les cinémas ont pu rentabiliser leur chiffre d'affaires grâce au popcorn. Merci le popcorn et merci CNews et Wikipédia pour le copier-coller parce que j'avais la flemme d'écrire cette chronique. Sur ce, bonne journée internationale du popcorn et dédicace à Morgane, vendeuse Sephora de qualité que j'ai fait chier avec cette journée. Bisous.
Bisous.
Putain, qu'est-ce que c'est bon.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit des bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les pesticides.
Oh,
faut arrêter les pesticides.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio
bien.
Qui vous nique les oreilles.
Bien.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit des bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
Les pesticides.
Oh,
faut arrêter les pesticides.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Et bien on est reparti pour une heure de bon vieux reggae sur les ondes de Pulse comme chaque mardi 19-20h. John Holt pour démarrer avec ce morceau quand même assez rare. My Heart Is Gone. Juste après, ce sera Black Roots, Juvenile Délinquant, Desmond Dekker. Juste après avec Hitmake et All 16 The Peaceful Rastaman.